Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du jeudi 30 mai 2024. Joe et Jill Biden en visite d'État en France pour la première fois le 8 juin. Le Congrès national africain est en passe de perdre sa majorité absolue à l'Assemblée nationale d'Afrique du Sud qu'il détient depuis la fin de l'apartheid en 1994. Au Burkina Faso, à peine libéré, l'avocat Guy Hervé Kam enlevé. Le président sénégalais effectue sa première visite au Mali et au Burkina Faso. La contrebande d'or africain prend de l'ampleur selon l'ONG Suicide dans un rapport publié ce jeudi.
Il y a eu un doublement du prix de l'or et c'est ce qui a créé une ruée vers l'or dans de nombreux pays, en particulier dans les pays du Sahel.
Marc Hummel de l'ONG Suicide nous en dira plus dans la partie magazine. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le président des États-Unis, Joe Biden, sera reçu par son homologue français, Emmanuel Macron, et ce sera le 8 juin à Paris à l'occasion de sa première visite d'État en France. Cette visite sera précédée par les commémorations du 80e anniversaire du débarquement allié pendant la Seconde Guerre mondiale le 6 juin en Normandie, auquel assisteront donc le président américain et son épouse Jill Biden. La Maison-Blanche a précisé dans un autre communiqué que Joe Biden serait en France du 5 au 9 juin. Des bombardements à l'artillerie et des tirs intenses à Rafah, l'armée israélienne poursuit ses frappes et son offensive terrestre dans la ville peuplé du sud de la bande de Gaza en dépit de l'indignation internationale. Alexandrine Olugnon.
Des témoins ont fait état de bombardements intenses dans le centre et l'ouest. Des frappes ont aussi touché le secteur de Tel Zareb dans l'ouest. L'armée israélienne a annoncé mercredi soir avoir pris le contrôle ces derniers jours du couloir de Philadelphie, une zone tampon de 14 km de long qui borde la frontière égyptienne le long du sud de la bande de Gaza près de Rafah. À Pékin, pour un forum réunissant la Chine et des pays arabes, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a appelé à empêcher tout déplacement de Gazaouis par la force. Il a aussi appelé à un engagement sérieux et immédiat envers une solution à deux États et la reconnaissance du droit légitime des Palestiniens à un État indépendant. Le président chinois Xi Jinping a plaidé pour l'organisation d'une conférence de paix élargie pour mettre fin au conflit, affirmant que la justice ne devait pas être absente pour toujours. La guerre entre Israël et le Hamas pourrait se poursuivre encore 7 mois, selon le conseiller israélien à la sécurité nationale, Zachi Hanegbi.
Le parti de Benny Gantz, membre du cabinet de guerre israélien, a déposé aujourd'hui un projet de loi pour dissoudre le Parlement et tenir des élections anticipées. Cela fait suite à la demande du chef du parti de M. Gantz d'aller de l'avant dans le cadre d'un large accord en vue de la tenue d'élections avant le mois d'octobre, un an après le massacre du 7 octobre, selon un communiqué de ce parti. Les prochaines élections législatives en Israël sont prévues pour octobre 2026. Les députés espagnols ont définitivement adopté aujourd'hui une loi d'amnistie en faveur des indépendantistes catalans, mesure phare très controversée du gouvernement de gauche de Pedro Sanchez, qui permettra le retour des indépendantistes en exil depuis la tentative de sécession avortée de 2017, comme Carl Puigdemont. Les séparatistes ont toutefois averti que cette amnistie n'était pas la fin de leur combat, mais une simple étape. Gabriel Rufián, de gauche républicaine de Catalogne, l'autre parti indépendantiste, a ainsi estimé que le prochain arrêt sur la voie menant à l'indépendance était l'organisation d'un référendum.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité en Afrique. L'Afrique du Sud attend les résultats des élections générales tenues hier. Les premières tendances encore partielles laissent entrevoir ce jeudi un recul historique de l'ANC, le Congrès national africain. Jacques Aristide.
Avec 22% des votes comptabilisés à 15h GMT, l'ANC, parti au pouvoir depuis 30 ans, se plaçait sous la barre fatidique des 50% avec 43,5% des suffrages exprimés selon la commission électorale. L'Alliance démocratique, ou DIE, le plus grand parti d'opposition, cumulait moins de 25%. Les radicaux de gauche, des combattants pour la liberté économique ou IFF, rassemblaient près de 9% des voix et le petit parti MK, Umkhonto Wesizwe, de l'ancien président Jacob Zuma, un peu plus de 8%. Les résultats définitifs ne sont pas attendus avant le week-end. Habituellement, 80% des résultats sont compilés dans les premières 24 heures, suivant la clôture des bureaux de vote, a indiqué la commission électorale, évoquant toutefois des retards. Les résultats partiels reflètent pour l'heure les prévisions des experts et enquêtes d'opinion des dernières semaines, après une loyauté sans faille à l'égard de l'ANC qui a libéré l'Afrique du Sud du régime de l'apartheid. Les électeurs devraient faire perdre pour la première fois au parti de Nelson Mandela sa majorité absolue au Parlement.
Au Burkina Faso, Guy Hervé Kam, célèbre avocat et leader de la société civile arrêté fin janvier, a été enlevé mercredi soir à Ouagadougou, juste après avoir été libéré, a annoncé ce jeudi son organisation. Il avait d'abord été détenu par la sûreté de l'État avant qu'un tribunal n'ordonne en avril sa libération. Nani Talani.
Le mouvement Sens, servir et non se servir, dit avoir appris hier soir que des agents de la Sûreté nationale ont déposé Maître Guy Hervé Kam sur un terrain vide non loin de son domicile et qu'immédiatement un autre groupe d'hommes armés l'a récupéré pour une destination inconnue. Selon un correspondant de la VOA à Ouagadougou qui cite un des avocats de Maître Kam, ce dernier a été auditionné par le tribunal militaire et placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de la correction des armées de Ouagadougou. Cet acharnement des autorités à l'encontre de Maître Kam montre à souhait que nous vivons dans un État où l'arbitraire et la force des armes font désormais office de droit et de légitimité, estime le mouvement Sens, dont Hervé Kam est le coordonnateur national. L'organisation dit tenir entièrement responsable les plus hautes autorités du Faso quant à tout ce qui pourrait arriver à Maître Guy Hervé Kam concernant son intégrité physique et morale, tout en exigeant sa libération immédiate et sans condition. Mercredi, un ex-chef de corps militaire, le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, poursuivi pour tentative présumée de déstabilisation de l'État, a également été enlevé alors qu'il avait été remis en liberté provisoire la veille, selon son entourage.
Soudan du Sud, le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé aujourd'hui d'un an l'embargo sur les armes et les sanctions individuelles imposées depuis 2018, et ce malgré les réticences de plusieurs États membres. La résolution préparée par les États-Unis a recueilli 9 voix pour 6 pays s'abstenant. Cet embargo reste nécessaire pour juguler le flot d'armes vers une région inondée d'armes. Trop de gens, en particulier des femmes et des enfants, paient le prix de cette violence, a justifié l'ambassadeur américain adjoint Robert Wood. Un avis contesté par Juba et plusieurs membres du Conseil, comme la Russie, qui réclament de longue date la levée de cet embargo. Washington a imposé aujourd'hui des sanctions économiques à l'encontre de 2 entreprises centrafricaines, Mining Industries et Logistique Économique Étrangère, des entreprises liées au groupe paramilitaire russe Wagner, soutenu par Moscou. Le réseau Wagner a fait progresser les activités déstabilisatrices de la Russie aux dépens de la souveraineté de la Centrafrique, détaille le département américain au Trésor dans un communiqué citant entre autres l'implication d'entreprises liées au groupe Wagner dans l'extraction et l'exploitation forestière illicite de l'or et des diamants. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, élu fin mars, se rend ce jeudi au Mali et au Burkina Faso, sa première visite dans des pays de l'Alliance des États du Sahel qui ont récemment tourné le dos à la CEDEAO. Eric Manirakiza.
Diomaye Faye est arrivé en fin de matinée à Bamako pour s'entretenir avec le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, selon une source au sein de la présidence malienne. Ces visites s'inscrivent dans une dynamique de renforcement des liens historiques, de bon voisinage, d'amitié fraternelle, de solidarité, de coopération multiforme, a dit mercredi la présidence sénégalaise dans un communiqué. Le déplacement de Bassirou Diomaye Faye est sa première visite au sein de l'AES, une alliance qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger, gouvernés par des régimes militaires arrivés au pouvoir par des coups d'État. Le dirigeant sénégalais a dit vouloir faire revenir au sein de la CEDEAO ces 3 pays. La semaine dernière, lors d'une visite à Accra, son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo lui a demandé de jouer un rôle dans la résolution de la crise entre l'AES et l'organisation régionale. Samedi, Diomaye Faye s'était rendu en Guinée où il a rencontré le général Mamadi Doumbouya, qui a pris le pouvoir en septembre 2021 par un coup d'État.
Un Nigérian et 65 de ses hommes accusés d'enlèvement et de meurtre de civils ont été arrêtés mercredi par l'armée du Niger dans le sud du pays, près du Nigeria. Originaire de Zamfara, un État fédéré nigérian proche du Niger, le nommé Kachala Baleri est classé 40e sur la liste des personnes les plus recherchées par l'armée nigériane. Et puis le pouvoir en Tunisie a intensifié ces dernières semaines la répression des médias à travers notamment une série d'arrestations et de condamnations dans le but d'anéantir la liberté d'expression, ont dénoncé aujourd'hui Human Rights Watch et Amnesty International. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec John Lydon.
Au moins 402 milliards de dollars, c'est le montant des fonds dont l'Afrique aura besoin chaque année pour combler les déficits de financement dans des domaines clés tels que l'éducation, l'énergie, la productivité, l'agriculture et les infrastructures. C'est ce que souligne l'agence Ecofin qui cite le dernier rapport « Perspectives économiques en Afrique 2024 » publié par la Banque africaine de développement. Les exercices se suivent mais ne se ressemblent pas, d'après le site Financial Afrique. C'est ce qu'on pourrait dire pour la société Tract Afrique Moteur Côte d'Ivoire, spécialisée dans la vente de véhicules automobiles neufs dont le bénéfice après impôt a enregistré une forte baisse de 43% au terme de l'exercice 2023 comparé à celui de 2022, ont annoncé ses dirigeants. La croissance du PIB des États-Unis au premier trimestre 2024 a ralenti plus qu'initialement annoncé à 1,3% au lieu de 1,6% selon la deuxième estimation publiée ce jeudi par le département du commerce. Cette révision est cependant un peu moins forte qu'attendue puisque les analystes anticipaient une croissance de 1,2%. L'estimation finale sera publiée le 27 juin. La croissance du PIB avait été de 3,4% au quatrième trimestre 2023. C'était la Minute Éco avec John Lydon pour VO Afrique.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean Rouget, bonsoir à tous.
Samuel Eto'o s'excuse et maintient le sélectionneur belge Marc Brice.
Oui, le président de la Fédération camerounaise de football a présenté ses excuses à l'entraîneur de la sélection nationale, le Belge Marc Brice, qui l'avait invectivé et remplacé il y a deux jours. Samuel Eto'o l'a aussi maintenu dans ses fonctions. Brice avait été nommé par le ministre des Sports sur directive du président de la République, Paul Biya, mais sa nomination avait été qualifiée d'illégale par la FECAFOOT. Eto'o l'avait remplacé mardi par un sélectionneur intérimaire après l'avoir sermonné dans une vidéo devenue virale. Je vous présente mes excuses, je serai à vos côtés pour les prochains matchs, lui a déclaré Eto'o au cours d'une conférence de presse ce jeudi. Dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2026, le Cameroun joue contre le Cap-Vert et l'Angola les 8 et 11 juin.
Riyad Mahrez déplore son absence de la liste des joueurs retenus avec l'Algérie.
Cela me tenait à cœur d'être présent. Je respecte effectivement le choix du sélectionneur, mais je prends acte de cette décision, a écrit Riyad Mahrez. Le sélectionneur Vladimir Petkovic a convoqué un groupe de 25 joueurs pour les deux prochains matchs de qualification au Mondial 2026, dans lequel ne figure pas l'ex-vedette des Fenech, qui évoluait cette année à Al Ahly en Arabie Saoudite, après 5 saisons passées à Manchester City. Nous avons discuté en mars. À ce moment-là, Mahrez avait demandé à ne pas participer. Nous avions convenu que dès qu'il serait prêt, il me contacterait. J'ai inclus Mahrez dans ma liste élargie, mais n'ayant reçu aucun appel de sa part, je considère qu'il n'est pas prêt à revenir. La porte lui reste toujours ouverte, a expliqué M. Petkovic. L'Algérie doit affronter la Guinée le 6 juin à Alger, puis l'Ouganda le 10 en déplacement.
Al Ahly de la Libye, Petro de Luanda, c'est l'affiche de la finale de la Basketball Africa League saison 4.
Le verdict des demi-finales est tombé hier à la Biké Arena de Kigali. En demi-finale, les Libyens d'Al Ahly qui découvrent pourtant cette compétition ont battu les Rivers Hoopers du Nigeria 89-83 après prolongation. Dans la seconde demi-finale, les Cape Town Tigers d'Afrique du Sud se sont également inclinés 96-86 devant les Angolais de Petro de Luanda, là aussi après prolongation. Libyens et Angolais vont s'affronter ce samedi 1er juin pour la succession d'Al Ahly d'Égypte, le champion en titre sorti en quart de finale. Demain vendredi, en match de classement, les Nigériens de Rivers Hoopers feront face aux Cape Town Tigers d'Afrique du Sud.
Page de sport VO Afrique signée Yacouba Ouedraogo. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. La contrebande d'or africain prend de l'ampleur. Selon l'ONG Suicide, chaque année, plusieurs centaines de tonnes d'or quittent l'Afrique vers Dubaï sans être déclarées. Cette pratique, qui a plus que doublé entre 2012 et 2022, impacte les économies, l'environnement et les droits humains. Eric Manirakiza, adjoint à Berne, Marc Hummel, responsable des matières premières au sein de Suicide.
Et ce qu'on a vu dans notre rapport, c'est que ça fonctionne de différentes manières. Donc il y a différentes caractéristiques de cette exportation d'or de contrebande. D'une part, on voit que dans certains pays, l'or est extrait dans des mines artisanales. Il y passe par certains comptoirs, des bureaux d'achat ou par certaines raffineries locales. Et il est ensuite exporté directement du pays, souvent en contrebande, directement vers les Émirats Arabes Unis, où il est transporté en bagage à main par avion. Mais il y a aussi un autre phénomène qui est aussi lié à la problématique de la non harmonisation fiscale justement entre les États africains. Et c'est justement quand vous avez des pays limitrophes qui ont une taxe à l'exportation qui est plus basse, c'est ce qui favorise justement le fait que certains traders font passer l'or par voie terrestre vers les pays limitrophes, d'où l'or est ensuite exporté soit en contrebande ou alors déclaré à l'exportation et très souvent de nouveau en bagage à main avant d'arriver à Dubaï.
Selon votre rapport, le phénomène de contrebande d'or africain a plus que doublé entre 2012 et 2022. Quels sont les principaux facteurs qui ont contribué à cette augmentation?
Oui, on a vu vraiment une explosion, je dirais, de la production d'or au cours des 10 dernières années et lié à ça, évidemment, une forte augmentation de la contrebande de l'or qui a plus que doublé entre 2012 et 2022. Et tout ça est lié en grande partie au fait que le prix de l'or a augmenté massivement au cours des dernières années. En 2019, le prix d'un kilo d'or équivalait à environ 30 000 dollars et aujourd'hui c'est plus de 70 000 dollars, donc il y a eu un doublement du prix de l'or et c'est ce qui a créé une ruée vers l'or dans de nombreux pays, en particulier dans les pays du Sahel. On a vu que ça avait commencé avec le Soudan et ensuite ça s'était propagé vers le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, la Mauritanie, le Sénégal, et c'est ce qui fait qu'il y a énormément et même des millions de mineurs artisanaux en Afrique qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles.
Et quelles mesures spécifiques Suicide propose-t-elle pour lutter contre ce trafic d'or? Quels sont les rôles des gouvernements africains, des entreprises internationales et des organisations comme la vôtre dans cette lutte?
Oui, je crois que pour arriver à mettre un terme à ces flux d'or illégaux, ou en tout cas à les réduire, il y a une responsabilité partagée. Il y a d'une part, évidemment, la responsabilité des États africains qui se doivent de s'engager dans la formalisation de cet or artisanal avec différentes mesures, notamment en améliorant l'accès au financement pour les mineurs d'or artisanaux, en essayant de mieux les encadrer au niveau de l'exploitation, de l'extraction de cet or, en termes de sécurité, en termes de respect des droits humains, en termes de normes environnementales. Et ensuite, il y a évidemment toute la question des exportations, donc tous les contrôles au niveau des douanes. On sait qu'il y a énormément de problèmes de corruption aussi. Donc là, l'État doit faire évidemment davantage de contrôles. Ça, c'est le côté africain. Et ensuite, il y a évidemment la responsabilité aussi des États importateurs, en particulier les Émirats Arabes Unis, mais aussi la Suisse, qui se doivent d'une part de faire davantage de contrôles sur cet or qui arrive sur leur territoire, mais aussi d'obliger les sociétés importatrices, notamment les raffineries, à exercer un devoir de diligence pour contrôler l'origine de l'or et de savoir comment cet or a été extrait.
Marc Hummel, responsable des matières premières au sein de Suicide. Une organisation philanthropique du Texas, Bridgeway Foundation, exhorte les rebelles du nord-est de la République démocratique du Congo à abandonner les violences. L'ONG largue par hélicoptère au-dessus de la forêt tropicale des centaines de milliers de brochures contenant des messages de sensibilisation. Les détails avec Thierry Kaoré.
Pendant près d'une heure, l'Américain Caleb West, vêtu d'un gilet pare-balles, éparpille depuis son hélicoptère des brochures exhortant les rebelles ADF à se rendre. Monsieur West travaille pour la fondation Bridgeway, basée aux États-Unis, qui se décrit comme la branche caritative d'une société d'investissement du Texas. L'ONG affirme se concentrer sur la prévention, l'élimination et l'aide aux communautés pour qu'elles se remettent de la violence. L'hélicoptère survole les régions de Beni, Irumu et Lambassa où les combattants de l'ADF ont établi des camps. Luc Nyanabo est le chargé des projets de la fondation Bridgeway à Beni.
Nous essayons d'identifier partout où se trouvent les concentrations de l'ADF, où il y a des camps des ADF, ou le passage des ADF. Et nous utilisons les avions pour lancer les dépliants qui demandent à tout le monde de quitter la brousse.
La plupart des dépliants colorés dispersés dans la forêt montrent des photos souriantes d'anciens mamans des ADF qui auraient été déradicalisés et réintégrés dans la société. Au verso, une carte de la région indique des points de rencontre pour les combattants qui souhaitent l'entrée chez eux et leur promet une aide gouvernementale. Luc Ndianabo, chargé des projets de la fondation Bridgeway à Beni.
Ils doivent passer par les centres pour être stabilisés. Ils subissent des séances de détraumatisation, déstabilisation, mais aussi des séances de déradicalisation. Vous savez que parmi les méthodes de l'ADF, ils peuvent relâcher les gens alors que c'est des personnes qui sont radicalisées et viennent travailler et restent dans la communauté au compte de l'ADF.
L'État islamique considère les ADF comme sa branche en Afrique centrale et a revendiqué près d'une centaine d'attaques dans la région depuis le début de l'année 2024. Des anciennes otages, dont les noms n'ont pas été divulgués pour leur sécurité, racontent leur calvaire lorsqu'elles ont été enlevées par les rebelles.
Ils nous ont enlevés avec mon mari en août, mais en décembre, mon mari a réussi à s'échapper lors d'une attaque. Malheureusement, je ne sais toujours pas s'il a été tué ou s'il est toujours en vie. Je n'ai aucune nouvelle de lui parce que je suis restée en captivité.
Ils ont appris aux garçons à manier les armes, mais le reste d'entre nous a appris le Coran. Les rebelles nous disant que Dieu veut que le monde entier soit musulman. Ils insistaient sur ce point, et si quelqu'un refusait d'apprendre, il était ligoté. Il fallait partir à 5 heures du matin et revenir à 8 ou 9 heures du soir en répétant des passages du Coran.
La fondation Bridgeway collabore également avec les services de renseignement militaire congolais et ougandais pour retrouver Seka Moza Baluku, le chef des ADF, dont la tête a été mise à prix pour 5 millions de dollars par les États-Unis.
Au Sénégal, le lancement ce week-end d'une campagne de sensibilisation baptisée Skin Print. Son but, dénoncer à travers l'art et la mode les stigmatisations subies par les personnes atteintes de maladies de la peau, comme l'albinisme ou encore le vitiligo. Et pour démarrer ce mouvement qui se veut inclusif, un défilé très spécial s'est tenu en plein cœur de la forêt. Le reportage de notre correspondante à Dakar, Alison Fernandez.
Dernier préparatif dans les backstage du défilé en plein cœur du parc forestier de Anadaka. Aujourd'hui, des mannequins professionnels défileront aux côtés de débutants atteints notamment de troubles de la peau comme le vitiligo ou l'albinisme. Abdulaziz Sall, surnommé Zizou, n'en est pas à son coup d'essai. Il évolue dans le milieu du mannequinat depuis 7 ans. Il a même été élu Mister Albino Sénégal et fait régulièrement des photos publicitaires.
On arrive à faire passer nos messages précisément dans le domaine mannequinat. Parce que le fait de défiler, le fait de se voiler, de se montrer en tant que personne albinos, c'est quelque chose de magnifique et c'est quelque chose vraiment touchant qui pousse les gens à nous accepter dans le milieu.
Qu'elle soit couleur terre, couleur ivoire, couleur ébène, qu'elle soit dépossédée.
C'est justement le but de ce défilé qui a lieu dans le cadre de la campagne Skin Print, dénoncer les stigmatisations dont sont victimes les personnes atteintes de maladies de la peau et encourager l'inclusion. À l'origine de cette campagne, le styliste gabonais Roméo Moukani, installé à Dakar depuis plus de 10 ans.
Ça fait 3 ans, plus de 3 ans quand même, que le point de départ a été fait. Et pendant tout ce temps, il y a eu des rencontres, il y a eu une recherche personnelle de soi. Parce que Skin c'est aussi une manière pour moi de vaincre mes peurs, de vaincre l'affront de la différence, de vaincre le regard des autres et tout ça.
Au Sénégal, de nombreux préjugés et fausses croyances sont associés à l'albinisme. L'an dernier, le CERD, Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale, s'est dit préoccupé par la situation des albinos dans le pays, notamment leurs difficultés d'accès aux soins, à l'éducation et la santé, et même les violences physiques dont ils sont victimes.
J'ai eu envie obligée de pleurer parce que je me suis mise à leur place. C'est des gens qui souffrent de problèmes de vue, pour ceux qui souffrent des problèmes de tâches aussi, comment s'accepter, comment s'intégrer dans la société. Donc je me suis mise à leur place et j'ai ressenti ce qu'ils traversaient. Et les voir beaux comme ça dans la nature, c'était apaisant en fait.
La campagne Skin Print se déroulera pendant plus d'un mois. Au programme, ce défilé, mais aussi des expositions photos, peintures ou encore des projections de films. Des œuvres qui visent à questionner et défier les normes de la beauté. Alison Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Après avoir commencé à délibérer hier au tribunal de Manhattan, les 12 jurés poursuivent les débats au procès pénal de l'ancien président Donald Trump. Ils doivent répondre à la question de savoir si Donald Trump est coupable de falsification de documents pour dissimuler un paiement à une actrice de film X afin d'éviter un scandale lors de sa campagne en 2016. Nathalie Barge relate un compte-rendu de Scott Stern sur la campagne électorale 2024 qui s'invite jusque devant le palais de justice de New York.
Au cours de ces 6 dernières semaines, Donald Trump s'est plaint du caractère politique, selon lui, des accusations portées contre lui.
Il n'y a jamais eu quelque chose de pareil dans l'histoire de notre pays. C'est une arnaque. Il s'agit d'une ingérence électorale d'un niveau sans précédent.
La campagne du président Joe Biden s'était abstenue de commenter le procès de son adversaire jusqu'à cette semaine lorsque l'acteur Robert De Niro a fait une apparition devant le palais de justice de New York pour se prononcer contre Trump.
Lorsque Trump s'est présenté en 2016, c'était comme une blague. Ce bouffon candidat à la présidence, non, cela ne pourrait jamais arriver. Nous avions oublié les leçons de l'histoire qui nous ont montré d'autres clowns pas pris au sérieux jusqu'à ce qu'ils deviennent des vicieux dictateurs. Avec Trump, nous avons une seconde chance. Et personne ne rit désormais.
Pour le conseiller de Trump, Jason Miller, cela montre que l'ancien président avait raison depuis le début.
Ainsi, les gens de Biden l'ont finalement fait. Après avoir déclaré pendant des mois que la politique n'avait rien à voir avec ce procès, ils se sont manifestés et ont fait du procès du président Trump dans le Lower Manhattan un événement de campagne.
De Niro commente une vidéo de la campagne Biden qui, selon lui, met en évidence la quête de pouvoir de plus en plus désarticulée et dangereuse de Trump depuis qu'il a perdu les élections de 2020.
Maintenant, il se présente à nouveau. Cette fois, il menace de devenir un dictateur et mettre fin à la Constitution.
Si je ne suis pas élu, ça sera un bain de sang.
Trump veut se venger. Il ne reculera devant rien pour y parvenir.
Je suis Joe Biden et j'approuve ce message.
La campagne Trump affirme que Biden tente de détourner l'attention des électeurs de ses propres échecs. Caroline Leavitt, porte-parole de la campagne de Donald Trump.
Parce que Joe Biden est faible, pathétique, il constitue une menace pour la démocratie, non seulement avec cette militarisation de notre système judiciaire, mais aussi avec son invasion à grande échelle des frontières par des terroristes, des criminels. Notre économie est en ruine, mais nous dirigeons vers la Troisième Guerre mondiale. Ce sont les problèmes qui préoccupent les vrais Américains.
Un sondage conjoint PBS-NPR Marist indique que la majorité des électeurs américains ne suivent pas le procès. Le jury doit décider s'il faut acquitter Donald Trump, premier président américain à subir un procès pénal, ou le déclarer coupable de falsification de documents comptables en pleine campagne électorale.
Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Georges Léonard Sagno. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.